Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission. L'humoriste Alex Vizorek sera avec nous pour parler de deux spectacles. D'abord un à l'Olympia, dont Alex Vizorek est une œuvre d'art. Et un autre Folie Bergère pour le sublime conte Pierre et le Loup avec orchestre. Et puis, dans les indispensables, une vente aux enchères d'une partition de la main de Mozart et une expo au musée de l'armée. Si. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Avant votre portrait inattendu, c'est le journal de la culture. Par quoi on commence, je le sais, par deux disparitions qui ont eu lieu ce week-end.
Une cloche sonne, sonne, sa voix dès qu'on écho. Dit au monde qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nicot.
Le dernier des compagnons de la chanson, Fred Mella, est décédé samedi soir à l'âge de 95 ans. Alors les compagnons de la chanson, un groupe vocal très populaire de 1950 à 1970, ils ont pris leur envol à la Libération. Ce groupe de chansons françaises d'époque avait comme parrain Yves Montand ou encore Charles Aznavour. Ils ont fait leur adieu sur la scène de l'Olympia en 1983. Fred Mella, quant à lui, avait continué une carrière solo. Alors ce groupe portait à chaque fois une chemise blanche et un pantalon bleu. Ils ont accompagné Edith Piaf lors d'une tournée aux États-Unis en 1947. Fred Mella avait donné un dernier concert en 2008 à l'Olympia, 25 ans après les adieux des compagnons de la chanson. Et puis, un autre artiste, Philippe, nous a quitté ce week-end, Eric Morena. Oh mon bateau, sorti en 1987, vendu à plus d'un million d'exemplaires, succès énorme. Grâce à cet accent, cet humour, le chanteur avait été sélectionné pour les Victoires de la musique dans la catégorie Révélation de l'année. Eric Morena, passionné d'opéra, d'opérette, est décédé samedi à l'âge de 68 ans. Il souffrait d'un cancer, plusieurs dates de concert avaient été annulées.
Et puis on continue ce journal avec de nouvelles perturbations concernant le film J'accuse de Roman Polanski.
Je vous parlais d'un démarrage très fort pour le film du réalisateur accusé de viol, malgré aussi un blocage à Paris mardi soir. Cette fois-ci, le boycott a eu lieu à Rennes. Ce week-end, des militantes ont perturbé une séance du film. Le cinéma a été envahi. Jeanne Larouge, militante féministe et syndicaliste étudiante, a déclaré sur Twitter « On a envahi le TNB à Rennes pour exiger la déprogrammation de J'accuse. Des centaines de personnes ont été évacuées. On attend de rencontrer le directeur qui a expliqué dans une lettre que projeter J'accuse, c'était ouvrir le débat. » Alors après plusieurs discussions, la direction a décidé de déprogrammer les trois séances du film prévues hier, mais ont maintenu les suivantes.
On va partir du côté de Londres, où un musée a décidé de briser les tabous.
Oui, Philippe, Londres aura son musée du vagin. Pour, comme vous l'avez dit, briser quelques tabous. Il s'inscrit aussi dans un changement de société lié au mouvement MeToo. Alors je rappelle qu'il y a un musée du pénis à Reykjavik.
Ah, je savais pas.
Alors ce musée du vagin, qui sera donc dans le quartier de Camden, sera un lieu pour tous, didactique. Il s'attaquera dans un premier temps à toutes les idées reçues, les mythes, avec schéma à l'appui. Une partie est consacrée aux règles, magnifiée par une œuvre d'art insolite, la sculpture d'un tampon recouvert de paillettes rouges. Alors le musée sera bientôt ouvert au public. Des événements ont eu lieu déjà pour tous les âges. Pour la créatrice Florence Schechter, ce musée est une question aussi de santé publique. Elle a déclaré « Certaines personnes ont trop honte de consulter un médecin lorsqu'elles ressentent des symptômes et meurent littéralement de cette honte parce que des choses comme le cancer du col de l'utérus ne sont pas dépistées assez tôt. »
Fin de citation. Et on termine ce journal par une bague retrouvée.
Mon précieux.
Une bague en or 18 carats et elle appartenait à l'écrivain et dramaturge Oscar Wilde. Elle avait été dérobée il y a 20 ans et un expert d'art néerlandais, Arthur Brand, l'a retrouvée. On le surnomme d'ailleurs l'Indiana Jones du monde de l'art.
Wow.
C'est beau, hein, comme
ouais,
surnom.
Pas mal, ouais.
Alors pour la petite histoire, cadeau d'Oscar Wilde à un autre étudiant en 1876. La bague était une pièce maîtresse de la collection de Magdalen, l'un des plus prestigieux collèges d'Oxford, où l'auteur a étudié. Le bijou avait été dérobé lors d'un cambriolage en 2002. Tout le monde pensait que la bague avait fondu depuis. Alors Arthur Brand, qu'a-t-il fait? Il a activé ses contacts, il a mené l'enquête, une enquête qu'il a menée à George Crump, qu'il avait donc dérobé. Une petite cérémonie se tiendra le 4 décembre prochain, lors de laquelle Arthur Brand remettra la bague à Oxford, où elle redeviendra une pièce importante de la collection de souvenirs d'Oscar Wilde.
Merci beaucoup Hélène Manarino, à tout à l'heure pour votre portrait inattendu.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on est très heureux d'accueillir Alex Vizorek.
Bonjour Alex Vizorek.
Bonjour Culture Média.
Vous êtes comédien, surtout humoriste, on vous a vu chez Ardisson sur C8 dans Les Terriens du Samedi. On peut vous voir le dimanche maintenant chez Michel Drucker, vous entendre tous les jours sur France Inter, mais pas trop. Vous avez surtout joué pendant 10 ans votre spectacle. Ouais. Alex Vizorek est une œuvre d'art et contrairement à la plupart des humoristes de la radio ou de la télé, ce spectacle préexistait à votre arrivée Inter. Sauf que là, ça se termine, pas n'importe où, à l'Olympia le 6 décembre. Ouais. On repart par le commencement. La genèse du spectacle, comment c'est né? C'est quoi l'idée?
Je sors du cours Florent, j'ai envie de devenir comédien et je sens que c'est le one-man show là où je suis le meilleur parce que voilà, je pense pas être un énorme comédien, mais en one-man show, et je sens que là, les gens se marrent. Écoute ce que je raconte. Et donc je commence, mais vous savez, quand on commence, on est dans les petites salles, je fais un sketch par-ci, un sketch par-là. Et puis je finis par monter ce spectacle, je pense au Renitas, qui est un café-théâtre près de Ménilmontant.
Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est pas la géographie parisienne, c'était le thème.
D'accord, parce que je voulais vous dire que j'ai commencé dans les très très, très petites salles, la fierté d'aller à l'Olympia.
Le jour où vous connaissez quelqu'un qui démarre par le Zénith, vous m'envoyez son 06.
Tout
le monde démarre par les petites salles, Alex.
Je peux vous en dire.
Perdez pas du temps d'antenne.
Donc vous faites les questions et les réponses.
Oui,
ça va. J'ai décidé d'écrire sur l'art parce que tout le monde parle de lui et ils parlent très bien chacun de leur cas, mais j'avais pas envie de parler du métro parisien, de la taille de mon appart, de mes problèmes avec mes parents ou mes copines. Donc je me suis dit l'art c'est bien et j'étais allé voir Luchini qui parlait de littérature et je me dis ça c'est quand même formidable, j'ai été voir, j'ai envie d'acheter des livres et il m'a fait marrer et je me suis dit bon peut-être que modestement je pourrais parler de quelque chose qui s'en approche, en tout cas un sujet dit intelligent, mais quand vous venez voir le spectacle, vous vous rendez compte que c'est pas que intelligent.
C'est aussi intelligent. C'est les deux. Ouais. Ça commence, j'ai vu le spectacle, ça commence par une réflexion sur l'art des cymbales.
Voilà. Je me suis posé. En fait, chaque sketch, c'est un art en soi. Donc, c'est-à-dire que je voulais faire un sketch sur le cinéma, je parle du film Mort à Venise. Je voulais faire un sketch sur l'art contemporain, je projette des œuvres et je les commente. Je voulais faire un sketch sur la musique classique et je suis parti de ce constat. Comment un type qui a vraiment envie de faire de la musique, l'instrument derrière lequel il va se retrouver, c'est les cymbales. Enfin, ce son, parce qu'il y en a deux, fatalement, sinon ça marche moins bien. Et je fais vraiment, je crois que le sketch fait 12-15 minutes sur ça. On en parle en ce moment de Rostropovitch. Rostropovitch qui, devant le mur de Berlin, à un moment, a eu l'émotion de sa vie.
Avec son violoncelle.
Il va, il joue au violoncelle. S'il avait été cymbaliste, vous imaginez? Il se met devant le mur et il envoie des coups de cymbale. Exactement. Et donc voilà. Toutes ces réflexions-là que tout le monde sait un peu faire à moitié. Les gens viennent me dire, mais en fait, on y a tous pensé, mais on n'a jamais pensé à en écrire 15 minutes dessus. Donc je parle en partie de ça. Ouais.
Cinéma, vous dites Mort à Venise, oui. et vous donnez un conseil aux lycéens qui préparent le bac français.
C'est Mort à Venise, un des rares films où c'est plus rapide de lire le bouquin. Il n'y en a pas beaucoup. Donc le bouquin, c'est une nouvelle de Thomas Mann. Le film fait 2h11. Ouais. Donc ça ne sert à rien, je le dis, d'aller louer le film pour gagner du temps. Ce qui n'est pas vrai sur Germinal, par exemple. Le film de Berry fait gagner énormément de temps par rapport au livre. Donc voilà.
Merci pour le conseil. Donc l'Olympia, le 6 décembre, ça sera à 20h. On va voir quoi? On va voir qui? Il y a des guests, des surprises?
Oui, j'ai demandé à quelques amis, notamment de la radio concurrente, de venir faire coucou. Des gens avec qui j'ai commencé, des humoristes belges avec qui j'ai débuté. Donc oui, il y aura un peu des surprises. Et en première partie, il y aura le spectacle que je coproduis sur l'orthographe, la convivialité, ça s'appelle. Et c'est deux linguistes belges qui détricotent l'orthographe pour nous dire qu'effectivement, c'est pas toujours l'orthographe qui a raison. Et je trouve ça assez drôle.
Et est-ce qu'il y aura une revue de presse?
Sans doute.
Il y en avait, mais des fois vous la faites, des fois vous la faites pas.
C'est-à-dire que comme là, il y a beaucoup de choses. La revue de presse, c'est ce que je fais dans les médias. Je fais ça chez Drucker, j'ai fait ça chez Ardisson, tout ça. Mais les gens, ils attendent ça, donc je le fais en rappel.
Moi aussi, j'attends ça. Vous êtes venu avec.
Moi, je vous ai pris mes grands classiques.
Il faut raconter ce que c'est. C'est des vrais titres de la vraie presse.
Vous connaissez ça. Vous avez fait ça un peu, je pense, sur Bien Canal sûr. À une époque. Et donc, c'est toujours rigolo de voir que la vie, elle est parfois plus drôle que nous. Il y a un quart de touristes belges qui avait fait un détour de 1200 km parce que, en fait, il a tapé sur son GPS La Plagne, France. Mais comme il y a deux La Plagne en France, il s'est pas posé la question, il s'est dit on va déjà aller au premier. Et, sauf que c'était l'autre évidemment.
Okay. Et les gens
ils sont bien
ski.
Loin. Ils partaient au ski évidemment. Mais quand il a vu que Barcelone était approchée, il s'est dit c'est pas ici qu'on va skier. Il s'est posé la question et en fait évidemment il était sur le mauvais La Plagne. Donc
une autre
toujours moi j'aime bien quand c'est en Belgique. Il refuse de sortir de prison car c'est le jour des frites. Il y a un gars qui s'est dit bah j'ai fait assez de temps donc à un jour de plus il y a quand même une bonne cantine ce midi je reste.
C'est, oh mon voilà. Dieu.
Si je l'invente, vous allez vous foutre de ma gueule.
Mais non, mais c'est ça qui est génial.
Et si la ville l'invente, c'est vrai, fantastique.
Le gars, j'aimerais tellement qu'il nous écoute. Je sais pas si on a Fritz, mais on a Alex Vizorek.
Vous serez l'invité des médias la semaine prochaine.
Dans un instant sur Europe 1, on va tout savoir de vous, Alex Vizorek. Vous allez même peut-être apprendre quelques trucs sur vous que vous aviez oubliés. C'est le portrait inattendu d'Hélène Manarino et c'est dans un instant sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est leur Philippe du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Alex Vizorek, vous connaissez Hélène Manarino?
Je la connais, je suis tendu. Je connais son travail.
Hélène, c'est à vous, c'est le portrait inattendu d'Alex Vizorek.
Bonjour Alex Vizorek.
Bonjour Hélène Manarino.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas sur vous, peu en tout cas. Alors Alex, je ne prendrai pas l'angle de l'œuvre d'art comme le titre de votre spectacle. En revanche, nous avons dans ce studio celui que l'on peut nommer gendre idéal, ou presque, et ça dès l'enfance.
Il tape sur des bambous et c'est numéro.
Première chanson chantée à l'âge de 2 ans. Et oui, le niveau était très haut déjà. Alex Vizorek, petit, quand vos parents vous ont demandé un matin de jeter votre tétine au petit déjeuner, vous vous êtes levé sans rien dire pour la mettre à la poubelle. Un enfant normal aurait hurlé.
Oui, mais il avait peut-être eu 14 ans.
Je crois pas quand même.
Vous détestiez dormir à l'extérieur, c'était chez vos parents ou rien, sinon c'était la crise. Donc évidemment, aucun risque de découchage, de sortie en cachette. Votre maman adorait se rendre aux réunions parents-prof. Évidemment, on ne disait que du bien de vous. Un enfant qui met l'ambiance. C'était votre sœur qui faisait les bêtises. Quand vous vous mettiez en colère, 2 minutes plus tard, c'était tout de suite les excuses. Vous vous amusiez tranquillement avec vos musclores et votre nounours nommé le petit vert dans votre jolie chambre blanche et jaune. Et vous passiez votre temps avec vos grands-mères. Ouais. Vous avez été capable de suivre 2 cursus universitaires en même temps. Vous passiez votre temps à la bibliothèque. Aujourd'hui, vous adorez vous rendre chez votre maman. Bon, vous jetez sur les pâtes dans le frigo, certes.
Non.
Vous êtes... Si,
c'est vrai.
Il y a des pâtes dans le frigo, en Belgique.
Oui, mon beau-père est italien.
Non, mais vous savez que ça se cuit au fur et à mesure, les
pâtes. Oui, donc il en fait toujours beaucoup et il en reste toujours et je les tape chaque fois que j'y vais, oui.
Vous êtes le plus heureux des hommes à Noël. Bref, un côté idéal qui ne fait pas de vagues. Et il y a aussi la playlist du genre idéal.
Reviens, on va vivre la main.
J'adore.
C'est pas vrai,
bien sûr. L'amour de ma vie, Michel Thor. J'ai rencontré, j'ai son 06.
C'est pas vrai.
Si, je le donnerai pas.
Je suis Rital et je le reste. Et dans le verbe et dans le geste.
L'italien de Belgique.
Vous n'écoutez rien d'autre, Alex Vizorek, un style ancien, sympathique, qui s'applique partout. Vous aimez les petits pulls jacquard, les chemises à fleurs quand vous êtes de bonne humeur. Vous avez même porté un pantalon mi-jean, mi-cuir, qui a pu traumatiser quelques amis.
Ça, je ne sais pas qui l'a balancé.
C'est
mais
vrai ça, il était comment ce pantalon?
C'était un espèce de faux cuir que j'avais acheté en Italie. Ouais. Je voulais avoir l'air d'un
cuir, c'était
d'un
à quel endroit?
Partout. Et donc oui, ça moulait un peu, effectivement.
Ouais. Oui, c'est que vous voulez dire. Oui, pour que ça choque vos amis.
Le peu que ça puisse mouler, mais ça moulait.
Vous collectionnez les pantoufles, mais elles restent chez vous.
Je crois qu'on peut s'arrêter là.
On est bien dans les Charentaises.
Ouais,
hein,
ouais.
Voilà, je tiens à le dire, mais ça devait rester perso.
Vous détestez les tatouages, vous adorez faire la sieste qui va bien. Avec Alex Vizorek, on ne prend pas de risques. Même au ski, on ne skie pas, on reste en terrasse.
Ça c'est bien.
Vous avez une culture incroyable, surtout dans les catégories rose et jaune du Trivial Pursuit, ce jeu que vous adorez. Vous ne savez pas cuisiner, mais vous vous en sortez toujours avec une recette. Elle marche très bien, surtout pour draguer les pâtes aux champignons.
C'est vrai, mais je mets d'autres choses dans les pâtes.
C'est
l'héritage du beau-père.
Ouais. Dès que vous arrivez quelque part, vous avez un petit cadeau, une boîte de chocolat par exemple. Bon, nous, on n'a rien eu ce matin. Vous assurez toujours que les gens présents à votre spectacle sont bien assis, qu'il ne fait pas trop chaud, vous êtes toujours très bienveillant. Alex Vizorek, c'est fatigant. Nous avons presque rien à vous dire.
Vous avez trouvé, j'imagine.
Évidemment, votre face A est quasi parfaite, même dans le pull jacquard. Passons à la face B.
Ah. 50 ans, quand tu seras mort, des canailles.
Alex Vizorek, le tableau n'est pas tout blanc. Élève modèle, pourtant vous avez été plusieurs fois pris en flagrant délit de triche sur vos voisins en cours.
Oui, oui.
Vous avez traumatisé votre professeur de physique, Madame Berlaymont.
Ah, attendez pas à celle-là.
Non,
eh ben non, elle est là, Madame Berlaymont.
Wow, ouais. Bon, qu'est-ce que vous je sais plus ce que je lui ai fait, mais oui, oui, si, si, effectivement, elle m'a engueulé. Et puis j'ai admis avoir triché.
Ça, donc, c'est pas mal.
Et donc,
c'est
elle,
idéal. Ça.
Elle a dit, Vizorek, vous trichez. Et j'ai dit oui.
Ouais.
Et elle a dit, ok, bah alors vous avez zéro, mais vous pourrez repasser la prochaine fois. Et l'honnêteté m'a aidé. Et je n'ai retenu ça dans la vie.
Quand ce n'était pas en physique, c'était en cours de gym. Et ce bon monsieur Royer qui vous appelait Pamela, oui, car vous ne saviez pas faire les pompes.
Non, c'est vrai.
Il y a un jeu de mots.
Non, parce qu'en fait, je ne descendais pas bien.
D'accord.
On appelle ça pompage en Belgique, mais en France, on dit ponche. Ouais. Donc je descendais très bas.
Mais quel rapport avec Pamela?
Parce que comme elle avait des.
Ah, Pamela Anderson.
Pamela Anderson, bah, voilà, oui, elle ne descendait pas très bas.
Pamela qui vous a.
Qui vous... Je suis content que tout ça sonne,
monsieur Royer. Salut.
Pamela qui ne vous a jamais quitté, puisque vous avez, oui, été capable de sécher un cours pour rencontrer Pamela Anderson chez Pizza Hut.
C'est vrai.
Alors, on ne vous félicite pas, ce n'est pas fini. En 2002, lors de la Coupe du Monde en Corée, vous avez négocié avec un de vos profs pour arriver en retard à un examen pour pouvoir regarder Belgique-Russie.
Waouh, oui, c'est vrai.
D'autres
qu'on
vous
avait
ont
gagné,
suivi.
Un très bon,
et
bon,
oui,
score.
De toute façon, le foot, c'est votre passion, et Alex, oui, Vizorek. Même quand vous êtes dans une ville pendant 48 heures, vous trouvez le moyen d'aller voir un match local, même s'il est en division 3, comme une ville à côté d'Ibiza cet été, par exemple.
J'ai essayé, mais ils n'ont pas voulu y aller.
Revenons à votre scolarité. Dès que vous pouviez sortir d'un établissement scolaire, vous sautiez sur l'occasion, par exemple, lors des exercices incendies, vous étiez le premier dans la rue.
Oui.
En pensant...
Déjà pour survivre,
ah c'est oui, drôle. En pensant qu'il y avait vraiment un incendie, tout en sachant que c'était un exercice.
Exactement.
Exactement.
Et jamais à l'abri.
On parlait de bibliothèque tout à l'heure. Rétablissons la vérité. C'était surtout pour dormir dans cette bibliothèque sur vos livres, ce, oui, qui vous donnait de magnifiques marques de pages sur la figure, exactement, évidemment. Alors, Alex Vizorek, vous êtes aussi un spécialiste des jeux de bar.
Il naviguait en perpénard, oui, sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Et avec les copains d'abord, bien sûr, véritable passion pour le billard et les fléchettes.
Les fléchettes, j'ai joué au darts.
Ouais.
4 années en club.
En club ?
Mais le vendredi, ouais, soir, après l'UNIF, on allait jouer dans des bars.
Bah oui,
parce que
non,
vous jouez dans des bars.
Ouais.
Vous avez même monté une équipe de fléchettes,
oui,
pendant 7 ans.
Oui,
Donc, vous avez joué dans tous les cafés de Bruxelles le vendredi, vous venez de le dire. Votre team, les Montmartre Beers.
Ouais,
votre nom de joueur...
Votre... Oui, bah, on a le droit de changer.
Hein. Ouais.
Je suis pas Yann Moix, mais j'ai fait des erreurs. Voilà, hein,
c'est... Votre nom de joueur,
oui,
Wiz the Wizard.
Ah bah oui, le magicien, ouais, ça c'est chic.
Vous finissiez souvent avec le jeu des 7 erreurs entre deux photos identiques d'une femme nue.
Oh merde, oui.
C'est quoi ce
c'était
jeu?
C'était une machine, on vous mettiez, je sais pas, c'était 20 francs belges à l'époque, et il y avait deux photos de femmes nues, il fallait trouver les 7 erreurs. Et on était à 5 autour de la machine à pousser donc sur cette madame nue. Oui, c'est pas du tout MeToo, mais c'était dans le bar à l'époque, et bah, vers 23h30, c'est des jeux qu'on a envie de faire.
Hélène. Mais Alex Vizorek, sage ou pas sage, ce que vous vouliez, vous, c'est être comédien, monter sur scène. Vous l'avez fait la première fois à l'âge de 16 ans pour les 10 ans d'un club de golf. Mmh. C'était avant votre court-métrage que vous avez réalisé en mettant en scène des marionnettes d'un lion et d'un cochon animés avec vos doigts.
C'est vrai, voilà,
ouais,
c'est vrai, c'est vrai.
Alors,
des marionnettes de doigts.
Super.
Oui, c'est un
ça
début.
A traumatisé beaucoup de gens.
Oui, oui.
Alors, Alex Vizorek, finalement, si on additionne la face A et la face B, ça peut donner une œuvre d'art qui, loin d'être parfaite, est agréable à analyser.
Je vais vous emmener, Hélène, danser ce soir.
Non, mais vous n'écoutez pas ça chez vous. Si. Vous n'écoutez pas Michel, mais vous n'écoutez pas que ça.
Mais moi, c'est-à-dire que ma mère, elle allait acheter pour mon Noël des
non, mais ça, j'ai compris
de Daniel
enfants,
Guichard.
Mais pas maintenant.
Mais
pas
bien
maintenant,
sûr que je préfère écouter Daniel Guichard.
Mais quand
Guichard
vous avez une nouvelle fiancée, elle arrive, vous lui passez Michel Thor et Claude Barzotti.
Je vais être honnête, pour
et
être sûr d'avoir bon goût, je mets FIP. Parce que
ouais,
je me dis que la musique est bien choisie. Mais moi-même, je suis incapable de choisir la musique. Moi, j'écouterais Chant de France, en toute honnêteté,
d'accord,
si je pouvais.
Mais c'est bien.
Ouais, c'est bien.
Voilà. Avis aux dames. Merci beaucoup, Hélène.
Alex Vizorek reste avec nous sur Europe 1 et dans un instant, on découvre nos indispensables du jour dans Culture Média.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est l'heure, Philippe, de nos indispensables du jour avec Thierry Geffrotin et Louise Bernard en présence de notre invité Alex Vizorek qui nous parle de son spectacle. Alex Vizorek.
tu peux arriver.
Alex
Vizorek est une œuvre d'art le 6 décembre à l'Olympia et il sera également sur la scène des Folies Bergères pour Pierre et le Loup les 26, 27 et 28 décembre.
Alors j'ai vu votre spectacle, Alex, il y a 2 ou 3 ans. Vous l'avez édulcoré ou pas?
Édulcoré, vous voulez dire j'ai enlevé des choses? Non, j'ai ajouté plutôt. C'est-à-dire que quand je vais dans les musées et que je vois des œuvres d'art assez amusantes, j'essaye de les ajouter plutôt au spectacle.
Ah non, moi je pensais pas ça. Je pensais à la tirade sur Bergman et Thomas Mann.
J'ai gardé.
Vous l'avez gardé?
Bien sûr.
Vous pouvez dire ce que vous dites sur Thomas Mann et les films de Bergman et Schumann?
Qu'en fait, j'aime bien tout ça, j'aime bien la grande culture, mais ce qu'au fond, on préfère, c'est baiser les salopes. Et oui, parce que la vulgarité, quand on ne l'attend pas, ça fait mouche. Et voilà, ça marche normalement à tous les coups. Et je vois que vous êtes souvenu d'un truc, c'est ça?
Bah évidemment, je l'avais noté parce que je me disais, ce type ose dire ça, et entre-temps, est passé MeToo.
Oui, mais on sent. Je crois que le problème, c'est que quand on sent que c'est pour rire et que c'est, on se moque de soi-même, ça va. Personne m'a jamais fait de remarque là-dessus. Mais c'est une bonne. Vous faites bien de me le dire maintenant.
On va parler avec Louise Bernard d'une expo. Alors justement, racontez en quoi, comment vous arrivez à faire rire avec l'art contemporain.
Mais c'est-à-dire que pas mal d'humoristes ont essayé de faire des sketchs sur l'art. Enfin, l'ont fait d'ailleurs. Et c'était très drôle, mais en inventant des œuvres. Ouais. Gad Elmaleh a un super sketch, que je pense c'est de lui, parce que c'est dans ses premiers spectacles, sur l'art contemporain. Super drôle. En revanche, il suffisait d'aller dans des musées pour voir ce que les artistes faisaient eux-mêmes pour se marrer. Il y a un artiste italien qui passe 20 minutes devant une caméra à bouger ses bras. Ouais. Et moi, je l'ai vu au Pompidou de Metz. Je m'avance et je regarde le titre de l'œuvre. Ça s'appelle L'espérance d'un envol. Et je vais pas vous mentir, il décolle jamais. Et vous passez 20 minutes à regarder ça, c'est fantastique d'intelligence, de drôlerie. Et en fait, il suffisait de prendre ça et de citer le mec pour que ce soit drôle. Ouais.
Vous êtes allé lui parler après ou pas?
Il était décédé, c'est un artiste italien des années 70. Essayer de s'envoler à force, évidemment, on tombe. Hein, mais oui.
Louise Bernard,
bonjour,
j'ai vu l'enchaînement. Aujourd'hui, vous nous conseillez une exposition qui a lieu au Musée de l'Armée à Paris qui s'appelle « Les canons de l'élégance ».
Oui, mais d'abord, je voulais faire un petit jeu avec vous. C'est un petit jeu d'association d'idées, c'est très simple, vous allez voir. Par exemple, si je vous dis « jour », vous me dites « nuit ». C'est bon, vous avez compris le principe. Je vous dis « soleil », vous me dites…
« Lune ».
Ok. Je vous dis « guerre », vous me dites…
« Paix ».
Ben non, élégance. Voilà, on n'associe jamais.
Bim.
On n'associe jamais ces deux mots, guerre, élégance. Et pourtant, c'est ce que fait le Musée de l'Armée à Paris, qui propose l'exposition Les canons de l'élégance. Donc.
Mais alors, qu'est-ce qu'on voit?
Plus de 200 pièces qui datent du 16e siècle à de nos jours, des tenues militaires, hein, forcément, mais pas que. L'élégance ne passe pas uniquement par les vêtements, mais aussi par divers objets, des armes à feu, des insignes, des épées, des accessoires. Chaque pièce est un petit chef-d'œuvre. Hein. On s'attarde sur les matériaux très précieux, des broderies, cuir, plumes, fer, or et même des diamants. En fait, ce sont un peu les trésors du Musée de l'Armée qui sont présentés. On écoute l'un des commissaires de l'exposition, Dominique Prévost.
90% des objets qui sont présentés dans cette exposition viennent des collections du Musée de l'Armée. Il y a extrêmement peu de prêts extérieurs. 60% de ces objets n'étaient pas présentés, étaient conservés en réserve. Donc, un certain nombre d'objets qui sont inédits et d'autres qui ont été assez peu présentés jusqu'à présent. Ça a donné lieu à un gros chantier de restauration pour préparer l'exposition, puisqu'il y a environ 2000 heures de travail de restauration.
Tous ces objets, ces tenues sont décryptés à travers les nombreuses salles, car cette élégance, ce faste militaire, c'est loin d'être anodin. Tout ça a un sens, plusieurs même, et ça varie selon les époques. Il y a par exemple la nécessité de se distinguer des civils ou entre militaires, les grades, hein, mais aussi d'être identifié comme un militaire ayant combattu à tel endroit ou allant combattre à tel autre. Ce sont des instruments de diplomatie aussi, hein, des cadeaux comme le poignard bédouin offert par Kadhafi à Sarkozy en 2007. Et puis il y a évidemment le nerf de la guerre, hein, si j'ose dire, le pouvoir. On écoute à nouveau Dominique Prévost, des commissaires de l'exposition.
Il y a un certain nombre d'insignes et de signes distinctifs qui permettent d'affirmer la grandeur du pouvoir, de montrer pour qui on se bat. Donc Louis XIV, quand il est entouré de ses gardes du corps avec leur tenue brodée d'or et d'argent, avec une pertuisane comme celle qui est présentée ici, cet ensemble de symboles militaires qui entourent le roi permettent d'affirmer le royaume comme une force militaire, une force politique puissante.
Et alors Louise, est-ce qu'il y a une pièce exposée que vous avez particulièrement appréciée?
Oui, alors il y a un fusil commandé par Napoléon Ier comme cadeau pour le shérif du Maroc, qui ne l'a jamais eu d'ailleurs. Une pure merveille ornée de diamants, de saphirs, d'émeraudes, entre autres. Et pour la petite histoire, juste avant l'exposition, le musée ignorait que c'était un authentique.
Non.
Ils s'en sont rendus compte. Si,
ils auraient pu se le faire piquer.
En faisant une expertise, autant vous dire que
c'est
maintenant,
génial.
Ils en prennent bien soin.
Non, c'est génial, on pouvait venir et se servir et partir avec.
Non, quand même pas. C'était quand même une pièce de l'exposition.
Louise, les canons de l'élégance, c'est à voir jusqu'au 26 janvier, c'est au musée de l'Armée. armée et c'est une exposition Europe 1.
Oui, oui, mais les dégâts, ça coûtait des victoires guerrières aux Français. C'est-à-dire que je crois que c'est en 14, ils avaient un pantalon bordeaux magnifique, sauf qu'il fallait plus mettre de pantalon bordeaux parce que les avions voyaient où étaient les militaires.
Ils voulaient en bleu et rouge comme le drapeau.
Il fallait être en camouflage.
Ça fait partie de l'exposition.
Ah ben ouais, c'est hyper intéressant de dire que à force de vouloir trop être élégant, les Français se sont fait un petit peu attraper à ce moment-là.
Merci, c'est Alex Vizorek.
C'est à ce moment-là que le kaki apparaît dans les tenues militaires.
Exactement, mais pas chez Alex Vizorek qui est encore en tenue de pompier bleu et rouge. Vous pouvez le voir sur europe1.fr.
Alex Vizorek est avec nous et on continue à faire le tour de nos indispensables du jour avec Thierry Geffrotin dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Alex Vizorek est notre invité. On reparle de son actualité, Philippe, juste après nos indispensables du jour. La suite avec Thierry Geffrotin.
Je ne vous présente pas Thierry Geffrotin. Bonjour
bien
Thierry,
sûr. Qui est en train bonjour de mettre son casque. Bonjour Philippe, bonjour à tous.
On connaît votre passion Thierry pour Mozart et ce matin, vous venez faire la manche dans l'espoir de pouvoir acheter une partition de jeunesse de votre compositeur préféré.
Eh oui, avant de vous donner la fourchette de l'estimation, parce que ce manuscrit est mis en vente aux enchères, bah je vous fais écouter le résultat sonore pour vous mettre en appétit.
Alors, de quoi, c'est quelle partition? De quoi s'agit-il?
Alors, ce manuscrit de la main de Mozart, très important ça, hein, ce sont deux danses.
Un manuscrit en général, c'est de la main, hein, je vous dis juste
mais,
ça comme ça.
Non, parce que ça peut être recopié.
Ah oui, d'accord.
Bing.
Vous avez raison.
Donc, c'est vraiment de la main de Mozart.
Mais c'est de la main, c'est un manuscrit de Mozart.
Et ce sont deux danses, des menuets pour orchestre, composées en 1772, qui portent le numéro 164 du catalogue Mozart. Il y a environ 626 œuvres, vous voyez.
Ah,
on
environ.
Est au début de la carrière de Mozart, il a 16 ans, il vit à Salzbourg, hein, avec papa, maman, sa sœur. Le manuscrit, alors il y a une très jolie histoire, il a appartenu à Stefan Zweig, vous savez, le grand
bien
écrivain
sûr.
Qui avait une passion pour les manuscrits, qui avait une grande collection de partitions autographes. Il n'a jamais été publié, ce manuscrit. Il comporte quelques corrections et modifications mineures, dont une ou deux seraient de la main de Mozart. On en revient à votre question, c'est bien un manuscrit. Et en fait, il y a peut-être deux personnes qui y ont travaillé dessus.
Alors, donc, deux Mozart pour le prix d'un, en quelque sorte. Il ressemble à quoi, ce manuscrit?
Bah, c'est très beau, c'est léché. Alors, j'ai fait des vulgaires photocopies, hein, parce que je sais qu'on peut nous voir sur Internet.
Ouais, c'est beau.
Ça, ce sont des photocopies, je vous le dis. C'est vraiment, il n'y a pas de rature, une belle écriture. Hein, c'est écrit pour un petit orchestre, des cordes, plus un hautbois, un cor. Donc, il y a de la musique à lire. Hein. On en a pour son argent, en quelque sorte.
Ah bah ouais, hein. Mais c'est quoi l'argent? Ça vaut combien?
Alors, estimation selon Sotheby's, là, ça devient plus douloureux. Qui fait passer ce manuscrit lors d'une vente qui a lieu aujourd'hui. Vous pouvez vous connecter sur Internet si vous voulez acheter, entre 150 000 et 200 000 euros.
Et alors, on sait qui collectionne les manuscrits de Mozart? Qui pourrait acheter ce manuscrit?
Ah ben ça, c'est une bonne question.
Alors, une personne ou un organisme?
Ouais, alors, le plus grand collectionneur, c'est une institution, c'est le Mozarteum, qui est une fondation dont le siège est à Salzbourg, la ville natale de Mozart. Le Mozarteum estime posséder plus de la moitié des manuscrits connus de la famille Mozart, une centaine de partitions, plus énormément de lettres, beaucoup de correspondances, notamment de Mozart père, de son fils. Ça, c'est très très important. Je veux dire, c'est pas plus important que la musique, mais c'est très très important. Pour revenir au Mozarteum, je suis pas sûr qu'il soit présent à Paris pour ces deux menuets, parce que voilà, ce sont pas des œuvres majeures de Mozart. Hein. Il a 16 ans, c'est bien, mais c'est pas majeur.
Et en France, à part vous, est-ce qu'il y a des gens qui collectionnent les manuscrits de Mozart, qui ont 200 000 euros devant eux tranquillou?
Moi, j'ai des facsimilés, j'ai fait enchanter notamment, mais j'ai pas du tout le manuscrit. Alors, je dois vous dire que la France, quand même, peut s'enorgueillir de posséder l'un des plus beaux manuscrits de Mozart. Il s'agit de la partition de Don Giovanni. Elle est la propriété de la Bibliothèque nationale de France, qu'il a reçue d'une cantatrice nommée Pauline Viardot. Alors, ceux qui s'intéressent à la musique, Pauline Viardot, c'était la sœur de la fameuse cantatrice, la Malibran. Eh bien, voilà, Don Giovanni, dont Richard Wagner disait, c'est pas n'importe qui, Wagner, que Don Giovanni, c'est l'opéra des opéras. Hein, oh. Cocorico, on a un trésor, nous, en France. Merci Pauline quand même et merci Wolfgang aussi.
Oh la cymbale, merci.
C'est
merci
important.
Thierry Geffrotin. En commentaire,
Mozart, c'est important la cymbale. Non, mais la grande musique.
La grande musique,
évidemment. Je suis très humble face à ça.
Prokofiev
Bien sûr, Pierre et le Loup.
Ah, l'enchaînement, vous avez vu ça. Vous serez le récitant 26, 27 et 28 décembre au Folies Bergères. C'est en matinée, donc l'après-midi, avec 18 musiciens, un dessinateur en direct. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet?
Une dessinatrice. C'est-à-dire que c'est super, c'est-à-dire que même les gamins de 3 ans, ils voient l'histoire se dérouler, elle dessine en live à chaque représentation. Ouais. Et évidemment, il y a 18 musiciens, ce qui est quand même conséquent. Et c'est la meilleure porte d'entrée vers la musique classique pour les gosses parce que les instruments se parlent, se répondent.
C'est vous le récitant.
Moi, je suis le récitant. Les gosses n'en ont rien à fiche que ce soit moi ou quelqu'un d'autre.
Vous faites pas du vis-oreille, faites le texte original.
Je fais quelques blagues au début, à la présentation des instruments, tout ça. Alors, je commence l'histoire en russe, ce qui angoisse les enfants. J'ai dit, mais vous parlez pas russe. Et il faut, non. Alors, je fais en français. Mais après, Prokofiev, je ne change rien.
Thierry, vous l'avez vu.
Je ne suis pas d'accord. Il n'est pas que le récitant. C'est beaucoup plus que ça parce que chacun apporte de soi dans Pierre et le loup. Et Alex, pour le coup, moi, je suis ressorti. Je connaissais bien évidemment l'histoire et la musique, mais je me dis, je vais m'en mettre une tranche et je vais peut-être y retourner cette année.
Vous êtes bienvenue.
Mais qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, dites-nous, vous
voyez comment il est. Vous voyez oui, sa
mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais il va pas, se mettre à broder. Il va pas
c'est quand même une œuvre écrite en 1936. Hein, ouais. Ça a été lu par les plus grands, Gérard Philippe, Peter Ustinov, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais voilà, lui, Alex Vizorek, il arrive avec son propre univers. Voilà, par exemple, il commence en russe. Ouais. Même un adulte, alors les enfants, je pense que ça les fait marrer, les enfants, les adultes, ça doit un peu les déstabiliser quand même. Et la suite, il y a quelque chose, il y a une patte, ça se raconte pas, ça se voit, quoi.
Alors, c'est aux Folies Bergères, vous restez avec nous, Alex Vizorek, et c'est en gros le grand écart entre, je dirais, Prokofiev, Michel Thor et les Pantoufles.
C'est ça.
La dernière partie de Culture Média, c'est dans un tout petit instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est la dernière partie de Culture Média, Philippe, avec Alex Vizorek qui nous parle ce matin de son spectacle. Alex Vizorek est une œuvre d'art, il sera le 6 décembre à l'Olympia.
Il y a quelques instants, Alex Vizorek, vous ironisiez très gentiment sur Gad Elmaleh. Que vous ont inspiré les révélations de Copy Comics, ces humoristes qui piquent des vannes aux autres, soit des Américains, soit des débutants, en espérant que personne ne remarque?
Moi, j'ai tout de suite dit que c'était bien que quelque part justice soit faite. C'est un grand mot, hein. On a tué personne quand on a fait ça. Mais c'est bien que les jeunes qui démarrent se rendent compte que la vraie plus-value du stand-up, du one-man show, c'est ce que vous venez apporter d'écrit. Alors moi, je travaille avec des co-auteurs. Donc,
justement, j'allais en parler.
Et tout, donc vraiment.
Très grande franchise dans le monde, vous avez révélé que vous travaillez avec des co-auteurs, pas moins de 5, 3 Belges, 2 Français.
Oui.
Comment vous bossez avec
Alors,
eux?
Je bosse avec eux pour tout ce qui n'est pas spectacle. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de chroniques télé, radio. Quand j'ai présenté les Molières, on a fait des réunions. C'est beaucoup plus chouette de travailler ensemble. Mais c'est toujours moi qui suis chef d'orchestre. C'est comme un cuisinier. Il n'y a pas un cuisinier qui va vous dire c'est moi qui coupe les carottes. Eh ben, on est une équipe. Il y en a qui font le marché, machin. Et puis à la fin, la recette, c'est la mienne. Mais c'est la nôtre. Et c'est pour ça que je les cite hyper volontiers.
Et il faut le dire, quand on regarde les talk shows américains, les late shows, parfois, il y a 30 auteurs. Mais et ça... c'est comme ça qu'ils peuvent faire mouche à chaque vanne.
Si je suis prétentieux, je dirais que Rembrandt venait terminer les tableaux. Ouais. C'est-à-dire qu'il venait et il disait voilà, je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça. Et puis il arrivait et c'était lui. Mais c'était son tableau.
Alex Vizorek est une œuvre d'art. C'est la dernière, le 6 décembre à l'Olympia. Après, vous ferez quoi?
Il est prévu fin avril, tout le mois de mai à Bruxelles. Je commence une petite salle et je vais rentrer à Paris septembre 2020.
Mais donc il est déjà écrit.
Il avance très très bien.
Ça va parler de quoi?
Je le dis pas encore.
J'avais juste ça s'appelait tome 2, c'est ça?
Je l'ai appelé tome 2 justement pour me laisser encore le temps de terminer.
Il faut changer d'avis même. Voilà.
Oui, c'est ça.
La saison passée, vous avez parlé, vous aviez accepté une mission vraiment casse-gueule, pour pas dire suicide. Vous aviez présenté sur France 2, c'était le 13 mai à 22h45, la Nuit des Molières. Tout le monde avait refusé avant vous.
Je pense, oui.
Ouais, bon, voilà. C'était comment niveau audience?
Alors, l'audience était mauvaise. Je crois que j'ai fait
Non. Vous avez fait la pire audience.
Ben voilà. Mais alors, j'étais derrière un téléfilm. J'ai rien contre le téléfilm. Mais tout le monde m'a dit, ils vous ont vidé la salle. Après, on dit ça en télé.
Vous une pièce de théâtre.
C'était un téléfilm sur Molière.
Téléfilm sur Molière.
Et donc, effectivement, la salle a été aussi vide qu'à un début de cérémonie. Donc, effectivement, les gens sont restés, mais ils n'étaient pas beaucoup là. J'ai eu que des super retour, je me suis marré à le faire. Je pense que quand on propose à un mec comme moi de présenter les Molières, c'est vrai.
Non, je veux dire.
Mais oui, mais il a raison. Mais c'est une chance unique.
C'est la vérité. Je veux dire. C'est pas faire un jour au talent d'Alex.
Non,
c'est que on lui a proposé un mois avant.
Normalement,
ça se prépare 6 mois avant.
On est d'accord.
Vous voulez dire quelque chose, Thierry Geffrotin?
Comme je m'intéresse un peu au théâtre, j'ai envie de dire à France Télé, osez. C'est-à-dire, si vous faites du théâtre une fois par an avec les Molières, faites-le à 20h50. Quoi. Voilà, on assume.
Attendez. Il a fait 596 000 téléspectateurs, 7,3% de part d'audience à 20h50. Ça aurait été peut-être encore pire.
C'est obligatoirement mieux si on sort du journal.
Pas en part de marché.
Ah, part de marché.
On fait toujours mieux en termes d'audience, qu'il y a plus de gens devant la télé, mais la part de marché diminue.
Il m'apprend la télé. Et vous avez raison.
Vous
avez absolument raison, bien sûr. Mais écoutez, voilà, j'ai l'expérience. Pouvoir parler 2 heures devant Michel Bouquet et remettre des prix à des gens que j'admire, c'était un super luxe. Et si vous regardez les extraits, ou mon monologue d'entrée, les quelques vidéos, je suis hyper fier et je ne changerai rien et je dirai encore oui.
Vous avez été recontacté pour cette saison?
Je pense qu'ils réfléchissent, mais à nouveau, ils vont me faire le coup. un mois et demi, de dire putain, on a pensé à toi depuis le début, mais on n'a pas voulu te le dire. Donc je leur ai dit effectivement, si vous me prévenez longtemps à l'avance, on peut réfléchir à un truc seul, à deux, à trois, à dix, enfin j'en sais rien. Mais si vous me prenez de nouveau un mois et demi à l'avance, je l'ai déjà fait, c'est bon, j'ai prouvé que j'étais capable.
Vous serez dans le film de Michel Denisot, Toute ressemblance.
Ils m'ont coupé.
C'est pas vrai.
Je vous jure.
Ah non, alors racontez.
Si, ça c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai fait. En fait, on était trois actionnaires dans le film. C'était la partie comique du film. Il y avait Sébastien Castro, moi et un troisième.
Ça se passe. Je sais très peu de choses. Je sais que ça se passe dans le milieu de la télé.
Exactement. Et donc c'est l'histoire d'un présentateur qui prend la place d'un autre et tout ça. Et nous, on était actionnaires, un peu l'image des actionnaires de Canal. Et c'était la partie drôle du film. Et je crois qu'à la réécriture du film, au montage, ils ont voulu en faire un film un peu plus sombre. Résultat, ils ont enlevé la partie drôle et le producteur m'a appelé hyper gentiment en disant voilà, je te dis, c'est comme ça. Mais c'est le cinéma. Moi, j'ai fait d'autres petits rôles et j'en ferai d'autres là qui arrivent. Je tourne dans le film d'Antoine de Maximi à partir de demain. Donc voilà, je suis toujours très content d'y aller. Le cinéma, c'est pas ma vie, mais ouais. C'est une récréation géniale.
Mince, alors est-ce que vous savez si vous serez au moins dans les bonus du DVD?
J'espère. Vous avez raison, je vais demander ça.
Non, parce qu'on peut toujours demander ça.
Oui, on peut demander ça.
Vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez rajouté plein de choses dans votre spectacle. Moi, je l'ai vu il y a 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce que vous avez rajouté récemment pour revenir à votre spectacle Alex Vizorek est une œuvre d'art?
C'est-à-dire que j'essaye toujours de faire des petits ponts avec l'actualité. Donc c'est vrai que l'actualité, elle a changé. Là, on a Xavier Dupont de Ligonnès qui avait un petit peu disparu des radars, ouais. Qui est revenu un petit peu dans les radars de tout le monde. Ça m'a amusé, évidemment. Christophe Castaner, quand j'ai commencé le spectacle, personne ne savait même qu'il existait, même Macron, si vous voulez. donc voilà, j'ai ajouté des petites notes d'actu, mais j'essaye de mettre l'actu au moment où les gens n'attendent pas. Je ne fais pas une revue de presse d'actualité.
Ah, mais vous n'avez pas rajouté de choses dans le cœur même du.
Le mec qui s'envole, ça, j'ai vu un moment dans un musée, donc de temps en temps, j'essaye de. Mais après, le spectacle, il est construit. Hein. Donc c'est-à-dire que quand on arrive.
J'ai vu, il y a plein d'images en fond, et on ne peut pas tout changer.
Voilà, quand on arrive à choper des rires, à comprendre. Parce que c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de copier. Il y a un moment, c'est tellement de travail d'arriver à la rythmique absolue de ce qu'on a envie de faire, qu'une fois qu'on la tient, on a aussi envie de la garder et d'en profiter. Quoi.
Bon, voilà, mais j'ai trop envie de voir ce que vous dites sur Xavier Dupont de Ligonnès.
Venez.
J'avais quelqu'un de la police, je lui ai demandé s'il était mort ou s'il était vivant.
Ah non, j'ai pas d'infos particulières sur le sujet.
Nul alors.
Je me suis dit, peut-être il se cachait Europe 1, mais non, j'ai regardé.
Merci beaucoup, Alex Vizorek. Ouais. Je rappelle, Alex Vizorek est une œuvre d'art. C'est à l'Olympia le 6 décembre. Et.
Oh.
Les 26, 27 et 28 décembre au Folies Bergères, vous êtes le récitant avec 18 musiciens et une dessinatrice en direct, c'est évidemment Pierre et le Loup.
Pierre et le Loup,
avec ce thème tellement splendide qu'on a presque honte de parler dessus. Merci la Sabane, merci Nicolas Souvent. C'est terminé Culture Média. Merci Céline Dacosta, merci Thierry Jeanfrodin. Nous on se retrouve demain avec Isabelle Carré et Cyril Danvers pour la partie Média et avec Lajli pour la partie Culture. Je vous dis à demain.
À
salut
demain.
Alex.
Salut, merci.